Voilà, chers amis, nous allons donc travailler ensemble. Je dis bien travailler ensemble. L'écoute est un travail aussi. Et j'aimerais au préalable faire deux ou trois remarques d'ordre général, peut-être aussi essentiellement à l'usage de ceux qui ne me connaîtraient pas, me présenter de manière à ce que je n'ai pas à répondre en aparté à tous ceux qui vont me poser des questions les uns après les autres sur ce que nous faisons, etc. Alors je le dis à tout le monde, et puis si vous voulez connaître en plus la pointure de nos chaussures, ça je veux bien vous le dire en secret, entre nous. Voilà. Je suis originaire de la frontière franco-luxembourgeoise, donc Lorrain, dont la devise est « qui s'y frotte, s'y pique », le chardon lorrain. N'en tirez pas forcément de conclusions prématurées. Et j'ai donc eu le privilège de rencontrer mon épouse qui est ici, en Bretagne, où nous avons servi le Seigneur pendant une dizaine d'années. J'étais donc pasteur d'une église, et j'ai rejoint mon épouse qui était assistante elle-même dans une église. Elle venait, elle, de Belgique, mais d'origine polonaise, française par mariage. C'est compliqué tout cela, mais peu importe. Et nous avons servi pendant donc 10 ans à Paimpol, un petit port côtier bien connu pour son folklore, la Paimpolaise, Pierre Loti, enfin ceux qui connaissent un peu le folklore breton savent ce que je veux dire. Et puis au bout de ces 10 années, Dieu nous a appelés à émigrer vers la région parisienne, que nous n'avons pas embrassée parce que nous ne le désirions pas, et nous nous sommes donc installés à quelques 100 kilomètres tout juste de Paris et à 15 kilomètres au nord d'Orléans. Ceci essentiellement pour me permettre d'itinérer. Depuis 10 ans maintenant, c'est la deuxième décennie qui se termine cette année, depuis 10 ans, j'ai pris un peu un bâton de pèlerin, et après 10 années plus sédentaires, bien que passablement animées sur la fin, je voyage beaucoup. Et je le précise parce que cette étude que nous allons vivre ensemble durant ces jours s'inscrit en particulier dans le cadre de ces voyages. Quand on visite de nombreuses églises, non seulement d'ailleurs en France, mais aussi outre-mer, dans un certain nombre de pays que je visite chaque année, peu à peu, on commence à avoir une idée de plus en plus précise des courants qui se développent, de la santé, de l'Église, de ses problèmes, de ses infléchissements, de son évolution, et cela aide énormément à la lecture des Écritures. On apprend beaucoup de choses, et je veux dire que j'ai beaucoup appris durant ces 10 dernières années. J'ai dû faire quelques 300 voyages sur 3 des 5 continents. Et je me suis rendu compte que, quelle que soit la culture de l'homme, même dans l'Église de Jésus-Christ, les problèmes de fond sont partout les mêmes. Nous allons donc toucher, durant ces jours, à des problèmes de fond très pratiques, tels qu'on peut les discerner tout d'abord à la lumière de cet épître de Paul aux Colossiens. Voilà pour la première remarque. Il m'a permis de vous dire un peu dans quel cadre nous travaillons. Quelques autres remarques. Je l'ai dit hier soir, je le redis ce matin, je vous encourage à essayer de prendre des notes. On verra éventuellement soit utiliser le rétroprojecteur ou un tableau. On fera ça ensemble, c'est le jour de dérouillage. Donc, il faut accepter que les choses ne soit pas encore tout à fait pleinement rodé. Donc je vous encourage à prendre des notes, je vous introduirai les chapitres, les divisions, les paragraphes, tout ce qui peut vous aider à bien noter. Et je me promets de ne pas faire une chose, c'est de ne pas regarder vos notes. Il m'est arrivé dans le passé, en faisant le ménage dans une salle dans laquelle avait eu lieu telle ou telle étude biblique avec moi, il m'est arrivé de jeter un regard sur les notes qui étaient restées sur certaines chaises pour voir ce que les amis avaient pris comme notes de ce que j'avais dit. Et plus d'une fois, mes cheveux se sont hérissés. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas ça ce que j'ai dit. Alors, je ne le ferai pas, je vous le promets. Les notes sont quelque chose de très personnel. Enfin, j'espère que vous communiquerez plus loin quelque chose qui sera au moins biblique et juste, même si les notes, parfois, sont dans un langage très très personnel. Troisième remarque, un schéma écrit, polycopié ou photocopié, vous sera remis à l'issue des études. C'est un schéma, une sorte de diagramme à compléter. C'est-à-dire, vous aurez l'occasion de faire un test en rentrant chez vous pour voir ce que vous aurez retenu et en même temps pour pouvoir transmettre plus loin. Mais je ne vous le remets pas maintenant, ce sera beaucoup mieux de faire cela tout à fait à la fin. Quatrième remarque, puisque les études sont enregistrées, nous voulons faciliter au maximum l'écoute pour ceux qui vont pouvoir les utiliser ensuite. Cela signifie que nous relèguerons les questions que vous pourriez avoir à poser, sauf si vraiment il s'agit d'une question tout à fait brûlante. Il paraît que les questions sont toujours brûlantes, alors je m'en méfie beaucoup. Mais dans toute la mesure du possible, nous reléguons les questions à la fin de l'étude, soit entre nous, vous venez vers moi, et si j'estime, après l'entretien que nous pouvons avoir avec l'un ou l'autre sur telle ou telle question, si j'estime que la question qui m'a été posée mérite ensuite d'être souligné à l'occasion d'une étude, j'en parlerai dans l'étude suivante. D'autant plus que, comme mon épouse le faisait remarquer ce matin au petit déjeuner, très souvent les questions qui sont posées trouvent leur réponse dans l'étude ou dans les études qui suivent. Alors on anticipe fréquemment, ce qui est normal, c'est un signe de bonne écoute, mais cela veut dire que la réponse vient un peu plus tard. Mais c'est surtout parce que si vous posez des questions au fond, les appareils ne captent pas forcément bien et c'est très désagréable pour ceux qui suivent sur cassette. Enfin, une dernière remarque tout à fait pratique. Si la salle ici faisait 100 mètres de profondeur, je suis persuadé que 90% des participants à l'étude se situeraient sur les deux dernières rangées. Vous savez que ça, c'est la règle générale. Pas dans tous les pays du monde, là c'est différent. Si vous allez en Afrique, aux Antilles, dans certains pays, on sait se mettre devant. Mais en Europe, je ne sais pas pourquoi, on se met toujours au fond. Est-ce que c'est l'école et les radiateurs du passé qui jouent? Alors je vous encourage, dans toute la mesure du possible, à venir le plus près possible de moi, sur les ailes, ça fait bien. Simplement pour une raison pratique. Tout d'abord, il y a ceux qui, pour toutes sortes de raisons qui ne m'appartiennent pas, arrivent un peu en retard. Donc, ça leur évite de... enfin, vous comprenez. Et puis, aussi, simplement, si, bien sûr, des mamans ou des papas doivent se tenir plus près de l'entrée pour des raisons évidentes de hurlement du côté de Myriam, on comprend que eux ou elles s'installent là. Mais pour les autres, venez le plus possible vers l'avant. Je crois que ça nous aidera les uns et les autres. Voilà, merci. C'est très gentil, l'amorce de mouvement vers l'avant. N'ayez pas peur de moi, mon épouse est là pour vous dire que je n'ai pas encore réussi à manger quelqu'un qui se soit avancé au premier rang. Et il n'est pas nécessaire d'avoir un parapluie, j'essaie de faire attention aussi. Voilà pour mes quelques remarques pratiques. S'il y en a d'autres, on les dira plus tard. Nous voulons encore prier, simplement. Seigneur, nous avons parlé de joie tout à l'heure, ou de bonheur. Il s'agissait du bonheur de l'homme tout court, mais nous voulons parler de la joie des enfants maintenant. Et nous te remercions parce qu'ouvrir ta parole doit être un sujet de joie pour nous. Même si c'est une parole qui laboure, qui peut faire mal, en vue d'une thérapie, d'une guérison, nous te bénissons parce que c'est une parole de bénédiction, que tu veux partager avec nous durant ces jours. Merci de nous avoir rappelé l'importance de la croix. Et notre cœur est reconnaissant pour la grâce, pour la générosité inouïe qui éclate à la croix. Merci pour ton pardon. Merci pour la réconciliation. Merci pour tout ce qui fait que nous pouvons désormais comprendre ta parole. Merci pour le don du Saint-Esprit, sans lequel ta parole ne nous serait pas accessible. Et Seigneur, merci pour la grâce, la provision suffisante pour obéir à ce qui est planté en nous. Et Seigneur, nous confessons au début de cette série d'études que c'est là que le bât blesse dans nos vies. Nous entendons beaucoup, nous parlons beaucoup. Et Seigneur, nous sommes si peu conséquents avec ce que tu nous dis. Pardon pour le fossé parfois si profond entre les théories que nous avons accumulées et la pratique si maigre. Mais nous voulons compter sur toi pour que ton esprit s'adresse à notre volonté et la mette en mouvement dans le sens du progrès, puisque tu nous prépares voulant nous amener à ta ressemblance jusqu'à ce que nous te voyons face à face. Alors, bénis-nous, Seigneur, par ce travail interne irrésistible, où nous soyons en quelque sorte contraints par ton amour à changer nos attitudes. Je te le demande pour moi-même. J'en ai besoin. Merci, Seigneur. À cause de Jésus-Christ. Sans qui tout cela ne serait pas possible. Amen. Nous allons lire ensemble dans Colossiens, puisque c'est là notre livre de base. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, nous lisons les 23 premiers versets sur lesquels nous aurons souvent l'occasion de revenir. Colossiens chapitre 1er, versets 1 à 23. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, dans le monde entier, il porte des fruits, il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre ou serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le rachat, la libération, le pardon des péchés. Le Fils, c'est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre ou serviteur. Deux autres textes qui nous seront très utiles au long de notre réflexion dans 2 Timothée. Au premier d'abord 1 Timothée 4. Nous lisons les 5 premiers versets. 1 Timothée 4, versets 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et donc 2 Timothée 4, ça se retient facilement, hein. 2 Timothée chapitre 4, pour les 5 premiers versets aussi, comme cela ce sera harmonieux parfaitement. 2 Timothée 4, 1 à 5, je t'en conjure, c'est solennel, hein. Je t'en conjure, dit Paul à Timothée, devant Dieu, et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, ça ne veut pas dire n'importe comment, ni à contre-temps, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur, et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables,
ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Nous allons essentiellement passer le temps qui nous reste pour ce matin à introduire notre sujet. C'est le privilège d'un camp de 10 jours de permettre de creuser davantage les sujets. Nous pouvons donc passer un peu de temps à l'introduire et nous dirons tout d'abord quelques mots de Colosses, puis quelques mots de l'église située à Colosses, et enfin de l'apôtre Paul et de sa situation au moment où il rédige cet épître. Et ce sera, vous le verrez, une bonne entrée en matière pour déjà saisir les problèmes de cette église de Colosses. Colosses. Vous avez dans la plupart de vos Bibles une carte en fin de Bible. Vous pourrez donc, je dirais presque au centre de l'Asie mineure, de l'actuelle Turquie, vous pourrez pointer les cités dont il est question dans l'Épître aux Colossiens. Alors Colosse était une petite ville située en Phrygie. Nous reviendrons sur la Phrygie parce que c'était une région intéressante justement au niveau des problèmes de déviation. Et cette petite ville de Colosse était située au pied d'une montagne. Ça fait penser à nos sommets ici. Il y avait le mont Cadmus qui était là, juste à côté, et qui culminait à quelques 2400 mètres. La dent de Creuse est à côté. Vous voyez, hein, donc un peu plus haut. 2400 mètres, il y avait une petite rivière, le Vicus, qui était là aussi. Et la petite ville de Colosse était à 3 ou 4 journées de marche de la côte. Éphèse, qui était vraiment la cité phare, sur la côte, était à environ 160 kilomètres à l'est de Colosse. Le Colosse avait eu un passé florissant. Au dire ou en lisant certains écrits d'historiens du passé comme Hérodote, qui a donc vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, ou de Xénophon et d'autres encore, on sait que le passé de Colosse avait été florissant. Ça a sans doute été une des villes les plus importantes de toute cette région. Peut-être pour une simple raison, on le voit d'ailleurs même dans l'histoire en France, elle se situait sur un nœud routier, un carrefour, sur une grande route caravanière, si vous voulez, à cette époque, ce qui nous aidera aussi à comprendre le pourquoi de la pénétration des déviations. Mais il se trouve qu'à l'époque de Paul, Colosse n'était plus qu'une toute petite bourgade, sans importance, tout à fait décadente, une cité insignifiante. Et c'est encourageant. C'est encourageant puisque Dieu a quand même trouvé bon sur les 27 livres du Nouveau Testament de sélectionner Colosse pour un message tout à fait particulier de sa part. Donc Dieu s'intéresse aux choses insignifiantes. Voyez que Dieu n'a pas tout à fait la même mentalité que l'homme de tous les temps et en particulier que l'homme d'aujourd'hui. Colosse, ville importante aux yeux de Dieu, même en pleine décadence. Colosse qui avait 2 voisines mentionnées dans cet épître, Laodicée, alors ça nous dit quelque chose, puisque nous avons dans l'Apocalypse une lettre qui est adressée à cette même église. Laodicée qui était à environ 16 kilomètres de là, la capitale d'un département de la province, était une ville très peuplée et parmi les plus importantes d'Asie, une ville importante dans le domaine du commerce, de l'industrie. C'était un centre bancaire important, et il faut lire d'ailleurs la petite lettre d'Apocalypse 3 à la lumière de son histoire et de cette époque florissante. Hein, tu es riche, tu n'as besoin de rien, mais c'est vrai, il y avait des banques, c'était peut-être la petite Suisse du coin, et pourtant, Dieu lui dit, mais tu ne sais pas que tu es pauvre. Elle était renommée pour ses tissus de laine noire lustrée aussi. Alors, c'est intéressant, en lisant Apocalypse 3:17, et c'était une ville située au carrefour de 5 routes. On peut comprendre là aussi son importance. À quelques kilomètres de là, Hiérapolis, 21 kilomètres environ de Colosse, une cité thermale. Et les cités thermales dans l'histoire ont toujours attiré beaucoup de monde. Très riche, station climatique, centre religieux, nous y reviendrons aussi. Et il faut savoir que les trois villes, Colosse, Laodicée, Hiérapolis, ont été détruites par un violent tremblement de terre peu après la rédaction de cette épître. Vous voyez qu'il y a des messages qui sont solennels. L'église de Colosse ne savait pas, au moment où elle lisait le parchemin qui lui parvenait depuis la prison de Rome, que peut-être un certain nombre de ses membres allaient périr peu de temps après. 2, 3, 4 années après, on n'est pas sûr, parce que les dates divergent d'un auteur profane à l'autre, et toujours est-il que Colosse a été pratiquement complètement rasé. C'est Eusèbe, un de ces historiens de l'époque, qui le raconte et qui place, qui situe ce tremblement de terre en 65 de notre ère. Alors quand on sait que l'épître aux Colossiens a été rédigée en 62 certainement, voyez que nous étions à un peu de temps près de ce drame. Alors Colosse s'est relevé lentement, beaucoup plus difficilement que les deux cités voisines, qui étaient beaucoup plus riches, et finalement elle s'est relevée pour peu à peu sombrer dans l'oubli. Elle a subi des invasions les unes après les autres, elle a été pillée, détruite, et au Moyen-Âge elle avait complètement disparu, mais depuis longtemps on n'en parlait pratiquement plus. Et il y a actuellement quelques ruines, d'ailleurs, des trois cités. Les trois cités, maintenant, ont fini d'exister. Mais Hiérapolis et Laodicée ont eu une histoire beaucoup plus brillante par la suite. Il y a même eu un concile à Laodicée. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Voilà pour Colosse. Quelques mots sur l'Église. Pour souligner tout d'abord que ce n'est pas une Église qui a été fondée par l'apôtre Paul. Il le souligne, chapitre 1er, verset 4, il parle d'information ayant été informée de votre foi. Verset 9 encore, depuis le jour où nous en avons été informés. En relisant cette épître, voyez, on peut lire des épîtres des centaines et des centaines de fois. Cette épître, je l'ai lu des centaines de fois. Mais c'est il y a quelques jours que j'ai été accroché pour la première fois par ces deux expressions. Surtout au niveau de l'information. Et par rapport à un de nos problèmes, parfois, dans nos mentalités évangéliques. Vous savez que parfois on a peur d'informer. On a peur d'informer parce qu'on a peur de faire connaître ses besoins. La Bible parle de l'importance de la communication et de l'information. Si on veut que les autres puissent prier comme il faut pour nous, il faut informer. Bien sûr, il y a une manière d'informer, tout est là. Mais l'épître de Colosse insiste, ou l'apôtre Paul insiste sur l'importance de l'information. Paul pouvait prier pour cette église d'une manière toute particulière, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait pris la peine de faire des centaines de kilomètres pour apporter une information précise. Et c'est grâce à cela que nous avons cette lettre. Alors, je pense à une œuvre hein, comme Champfleury, mais à tant d'autres domaines où il importe que nous sachions informer et donc se donner la peine. Il y a un bonhomme, là, comme nous allons le voir, qui s'est donné la peine, qui est allé très loin pour que une information passe et qu'une situation change, qu'un message soit annoncé et pour que finalement il franchisse les siècles et qu'il vienne jusqu'à nous aujourd'hui. Au chapitre 2, verset 1er, je veux en effet que vous sachiez combien grand l'agonie que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, et tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Il y a quelques querelles parmi les ceux qui analysent de très près les textes et l'histoire. Certains pensent que Paul n'est pas du tout passé à Colosse, d'autres disent qu'il est passé à Colosse. Il se peut qu'il soit passé à Colosse très rapidement à l'occasion de son troisième voyage missionnaire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est passé. Ça ne veut pas dire qu'il s'est vraiment arrêté et qu'il a pu donc rencontrer la jeune église de Colosse. Mais pourquoi alors, en dehors de la question d'information, l'apôtre Paul écrit-il cet épître s'il n'est pas le fondateur de cette église? Tout simplement parce que cette église est une église à prédominance païenne. Il y a des juifs convertis manifestement dans cette église à cause du langage qui est utilisé, mais c'est quand même une église en terre païenne à forte majorité païenne. Et vous savez que tout ce qui était païen faisait tilt dans le cœur de l'apôtre Paul. Il avait reçu de la part de Dieu une vocation très très solide et puissante à être lumière de Dieu parmi les païens, et chaque fois que quelque chose bougeait au niveau spirituel dans le monde païen, il estimait que c'était de son ressort. Autant il ne voulait pas empiéter sur les plates-bandes de Pierre, qui était davantage l'apôtre des circoncis, des juifs en quelque sorte, autant en ce qui concernait sa vocation, il a été motivé, et c'est donc cette motivation qui l'amène à écrire cette lettre. Ce sont donc, je viens de le dire, essentiellement d'anciens païens. Il y a ici et là des mentions. Versets 26 et 27 du chapitre 1er, il laisse entendre la chose au niveau de son ministère. Chapitre 1er, versets 21 à 27 même. Vous pourrez relire ceci. Ils se réunissent, dirions-nous aujourd'hui, dans une église de maison. Quelqu'un a parlé d'église de maison, je crois, certains amis là qui démarre une église de maison chez eux, bien c'était à l'époque une église de maison. Chez un croyant qui avait la place, qui avait les moyens, nous avons un petit billet à Philémon, il s'agit donc de Philémon, ils se réunissent chez lui avec quelques convertis d'origine juive. Par qui l'église a-t-elle été fondée? Certainement par celui qui est mentionné au chapitre 1er, et au verset 7, Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, ou compagnon d'esclavage, co-esclave, pourrions-nous dire ici, Épaphras. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ. Je n'aime pas tellement ce terme ministre, qui a été tellement déformé, alors qu'à l'origine, minus. Vous savez ce que c'est qu'un minute, hein? Alors, normalement, c'est ça ce que ça veut dire, hein? Le ministre est un minus. Mais ça a été très déformé, c'est devenu aujourd'hui un titre plus qu'autre chose. Le terme grec est ici le terme diacre, diakonos, un terme très général. Donc, qui est utilisé à diverses reprises. Un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'esprit vous anime. Alors, sans doute l'église a-t-elle été fondée par Épaphras et d'autres collaborateurs de Paul qui se sont, on n'en est pas certain, mais il y a de fortes chances, convertis en voyageant, certainement en allant à Éphèse. Éphèse drainait des gens de toute la province, hein. C'était une capitale très importante, très peuplée, très cosmopolite. On venait y faire ses achats, on était prêt à parcourir tous les kilomètres qu'il fallait. Et on sait que l'apôtre Paul y a exercé un ministère prépondérant, à partir du verset 8. Paul entre dans la synagogue, c'était son habitude, il commençait toujours par la synagogue, où il parla librement pendant 3 mois. Il discourait sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, c'est comme ça qu'on appelait les églises évangéliques, il dit un nom à la voix du Seigneur, c'est une belle appellation. Il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus, un recteur, un philosophe certainement, en tout cas une école de philosophie. Voilà, on loue une salle. Et on continue à enseigner. Cela dura 2 ans, de sorte, et c'est ça ce qui est intéressant par rapport à Colosse, que tous ceux qui habitaient l'Asie, la province d'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et très certainement, Épaphras, tout comme Philémon et d'autres, se sont convertis à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il quittait Éphèse après avoir reçu un bon enseignement, une bonne formation, parce que on sait que l'enseignement durait chaque jour plusieurs heures. Il repartait ensuite dans leur village reculé, en quelque sorte, et là, il travaillait à fonder des églises. Et Hierapolis, Laodicée et Colosse ont certainement été fondés par cette équipe d'hommes qui s'étaient convertis, avaient été formés par le service de l'apôtre Paul. Il y a des problèmes dans l'Église. La plupart des épîtres du Nouveau Testament ont été écrites parce qu'il y avait des problèmes. Ce qui devrait nous rassurer pour les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. C'était une toute jeune église, elle avait été fondée aux quelques années à peine avant l'envoi de cette lettre. Et à cause de ces problèmes, Épaphras va chercher conseil auprès de Paul. Il y a, à mon avis, 99 chances sur 100 pour qu'il soit allé chercher conseil auprès de Paul à Rome. Vous verrez que certains pensent que ça ne peut pas avoir été à Rome, mais pour des raisons qui ne tiennent pas tout à fait debout. Et il voit Paul tout à fait ailleurs pour cet emprisonnement. Je pense, et il n'y a pas lieu d'en douter, que Paul était à Rome à ce moment-là, en prison, et Épaphras fait donc des centaines de kilomètres pour partager la captivité de Paul. Peut-être même a-t-il eu des ennuis après, parce qu'il est resté auprès de Paul. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais le souci de Paul est de pouvoir, ou plutôt le souci d'Épaphras est de pouvoir s'entretenir avec Paul, l'interroger et lui partager avec lui ses problèmes de l'église de Colosse, et de s'instruire. Et pendant son absence, cet Archippe, qui est mentionné à la fin, dans Colossiens 4, 17, dit à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir, de le remplir avec plénitude. Et Archippe est mentionné aussi dans Philémon. Peut-être Archippe était-il simplement le fils de Philémon et de son épouse Apphia. En tout cas, c'est lui qui semble avoir pris le relais avec d'autres pour s'occuper de l'Église. Et trois lettres vont sortir de la prison de Rome en même temps. Ce ne sont pas les seules lettres, mais trois lettres sortent à peu près écrites dans le même jet de plume. Tout d'abord, l'épître dite aux Éphésiens. Vous avez remarqué, j'ai dit l'épître dite aux Éphésiens, tout simplement parce qu'on a retrouvé des parchemins, si vous voulez, des manuscrits sur lesquels il y a un blanc. Ou encore, et encore même, des manuscrits, notamment un manuscrit où l'épître aux Éphésiens, que nous appelons Éphésiens, porte un autre titre, l'épître aux Laodicéens. Alors, il faut faire très attention là, il se trouve tout simplement que l'épître dite aux Éphésiens était au départ une lettre circulaire, d'où l'importance des lettres circulaires, une fois de plus. C'était une lettre circulaire, l'apôtre Paul l'adressait à toutes les églises, et elles étaient appelées simplement à circuler d'une église à l'autre. Quand on avait fini de la lire, de la parcourir dans une église, quelqu'un la prenait et allait la porter à l'église suivante. Alors elle est allée à Colosse, elle est allée à Laodicée, à Hierapolis, et certainement un exemplaire, peut-être, et elle était copiée d'ailleurs très souvent, on faisait des photocopies ou des polycopies, pardon d'utiliser ces termes, n'est-ce pas, avec les moyens du bord de l'époque, et l'original peut-être était conservé à Éphèse puisque c'était la capitale. D'où l'appellation épître aux Éphésiens. Mais l'épître aux Éphésiens est mentionnée dans Colossiens 4. Vous voyez au verset 16, lorsque cette lettre, hein, Colossiens 4, 16, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, donc celle aux Colossiens, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Donc, amenez-la là-bas, à l'église sœur, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et il est fort probable que celle qui devait arriver de Laodicée, en réalité, c'était l'épître aux Éphésiens. qui était venu par un même courrier, en quelque sorte, jusqu'à la Odyssée, et qui allait donc ensuite circuler l'échange des lettres dans l'Église de Jésus-Christ. C'est très important aussi, là, il y aurait beaucoup de choses à dire. L'épître aux Éphésiens, l'épître aux Colossiens, on se rend compte qu'elles ont été rédigées pratiquement en même temps, tout simplement parce qu'elles se ressemblent étrangement. Vous avez 40 points communs, points de repère communs entre les deux épîtres. Vous avez des phrases entières qui sont semblables. Et pourtant, il y a aussi des différences très sensibles, parce que la situation, bien sûr, n'était pas du tout la même dans certaines églises que dans l'église de Colosse, qui connaissait un problème particulier. Mais nous aurons l'occasion de remarquer que le problème qui s'évitait dans l'église de Colosse a secoué finalement, par la suite, pratiquement toutes les églises d'Asie mineure. Et puis il y avait le petit mot, affilément, le petit billet personnel concernant Onésime, cet esclave fugitif, né de nouveau, sans doute en prison à Rome, par le ministère de l'apôtre Paul. Et donc ces trois mots vont partir par Tychique, dont il est question dans Colossiens 4, dans les versets 7 à 9. Tychique, le frère bien-aimé, il était originaire de la province d'Asie, ceci nous est dit dans le livre des Actes, au chapitre 20, verset 4. Tychique, le frère bien-aimé, l'utilisation de ce terme frère est très importante dans Colossiens, le frère Timothée, au chapitre 1er, au verset 1. Très important, cette utilisation des termes, la fraternité. L'apôtre Paul tenait beaucoup à ces termes, 200 fois dans le Nouveau Testament. La fraternité, l'Église, une famille. Alors, il est question de Tychique, le frère bien-aimé, le fidèle diacre, serviteur, mon compagnon de service, là encore mon compagnon d'esclavage, dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Il avait besoin d'être consolé, encouragé. Je vous l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé qui est les vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Venons à Paul pour achever de brosser l'arrière-plan de notre thème. Alors, nous l'avons souligné tout à l'heure, la lettre a été rédigée vers 62 de notre ère. Il semble que Paul soit né à peu près à la même époque que Jésus. C'est-à-dire non pas en l'an 0, mais en l'an 5-6 avant Jésus-Christ. Nous vivons une erreur de calendrier, mais enfin ça ne change pas grand-chose. Et au moment où il écrit, il s'appelle un vieillard, ce qui nous est dit dans Philémon au verset 9. Il est du troisième âge, il a dépassé la soixantaine, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, il est converti à Jésus-Christ depuis une trentaine d'années, on situe la conversion de l'apôtre Paul entre l'an 31 et l'an 35, suivant les commentateurs. Mais en tout cas, l'apôtre Paul s'est donné à Jésus-Christ relativement tard au point de vue âge. Il avait entre 30 et 35 ans. Si vous ajoutez entre 10 suivant les écoles, 10 et 15 ans de formation, où il a d'abord été membre d'une église, où il a travaillé avec un chef au-dessus de lui pour le former, pour l'aiguiller, etc. Et avant de devenir un itinérant, beaucoup voyagé, bien il s'est formé pendant une longue période. Mais il avait donc à cette époque une bonne trentaine d'années de conversion et de service derrière lui, qui étaient des années très difficiles, très très difficiles. Quand vous lisez 2 Corinthiens 11, par exemple, vous connaissez ce texte qui fait frémir hein, chaque fois qu'on le lit, et qui a été rédigé avant l'épître aux Colossiens, donc ça veut dire beaucoup. 2 Colossiens 11, versets 23 à 33. Sont-ils les ministres de Christ? Je parle en termes extravagants, je le suis bien plus encore, par les travaux, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Et ça, c'est pas le moindre des périls. Hein. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne meure? Impressionnant. Impressionnant. J'ai lu il y a quelque temps un énorme bouquin qui est épuisé depuis longtemps, qui a été écrit au siècle dernier et qui décrit par le détail toute l'Asie mineure. On n'a pas idée de cette région. Avec ses hauts cols enneigés, ses marécages, vous savez, on se rend compte que l'apôtre Paul devait avoir une très très robuste constitution pour entreprendre des voyages extrêmement difficiles dans des conditions d'insalubrité, parfois de promiscuité, puis alors avec les brigands, etc., n'est-ce pas? On n'imagine pas assez, quand on lit le livre des Actes, ce que cela pouvait signifier à l'époque où n'existaient pas les moyens de locomotion que nous avons aujourd'hui. Il est en prison à cause de l'Évangile. Dans le chapitre 4, vous avez 3 mentions de ses chaînes, et il souffre. Il souffre. D'ailleurs, étant en prison, ça ne devait pas être très amusant, surtout pour un vieillard, qui était peut-être à cette époque aussi perclus de rhumatisme, à l'époque où on n'avait pas de quoi les soulager, emprisonné, là, sous ces lourdes chaînes, entre ces soldats qui se relayaient, 2 par 2, garde après garde, et puis qui se convertissaient aussi chaque fois. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui fait du bien. Il souffre, chapitre 1, verset 24. Je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est déjà une des peaux de banane de l'Épître aux Colossiens. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Une des grandes déviations concernant le salut est née notamment de ce verset. L'aspect expiatoire des souffrances de la personne du croyant, n'est-ce pas, notamment au sein du catholicisme, ce qui manque aux souffrances de Christ. Alors, on va pas dire grand-chose, mais simplement souligner, et ceci devrait déjà suffire, vous avez plusieurs termes qui, dans le Nouveau Testament, dans le texte grec, sont rendus en français par le mot « souffrance ». Le terme qui est utilisé ici n'est jamais utilisé dans le Nouveau Testament pour parler des souffrances expiatoires de Christ. Jamais. Alors ceci devrait déjà être un argument fort. Vous savez, nous le verrons, la Bible est inspirée verbalement, dans ses mots, bien sûr, dans le texte original. Et nous verrons que c'est très important au niveau des déviations. Nous ne faisons pas assez attention dans l'utilisation des mots. Il y a beaucoup de déviations et de drames dans l'Église, de divisions dans l'Église sont nés de ce qu'on a bâti des doctrines erronées et ensuite de là des pratiques à partir de mauvaises définitions. Mais nous y viendrons, hein. Alors ça, c'est le premier argument. Et puis, alors il y a tous les textes parallèles. Vous savez qu'un texte difficile dans les Écritures s'éclaire à partir d'autres textes plus clairs, n'est-ce pas? La Bible s'explique par la Bible. Alors il se trouve, nous le verrons pour d'autres sujets, qu'il y a plusieurs textes qui vont dans la même direction. Vous vous souvenez de la conversion de Saul de Tarse, acte 9. Quand ce fier pharisien, plein d'une vindicte et de haine, se dirige vers Damas, n'est-ce pas, avec mandat d'arrêter les croyants, ceux de la voie du Seigneur, il est donc arrêté. Hein, et il interpelle, mais qui es-tu, toi, hein, qui m'arrête? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécute. Jésus était au ciel, il n'était pas persécuté directement. Mais il était persécuté indirectement parce que le corps est solidaire de la tête est solidaire du corps, n'est-ce pas? Et j'utilise souvent cette simple illustration d'une maman. Il y a des mamans, il y a même des grands-mamans parmi nous. Une maman et une grand-maman restent toujours une maman, même quand ses enfants ont 60 ou 70 ans, si elle est centenaire. Et ça veut dire quoi? C'est que une première fois, et la seule fois bien entendu, elle les a mis au monde. Et elle a connu les douleurs de l'enfantement. Mais ensuite, elle connaît d'autres douleurs. Chaque fois qu'un de ses enfants, si elle a vraiment gardé la fibre maternelle, si elle n'a pas perdu le sens de sa vocation, chaque fois que ses enfants souffrent, qu'ils sont malades, ou que l'un d'entre eux peut-être se retrouve en prison, bafoué, renié, la maman souffre. N'est-ce pas? Ce ne sont plus les souffrances de l'enfantement, elles n'ont eu lieu qu'une fois, mais c'est parce qu'elle reste la mère, jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et on peut dire que c'est exactement le cas dans cette situation. Jésus-Christ souffre au travers de son corps. Ce ne sont plus des souffrances expiatoires. Elles ont eu lieu une fois pour toutes, dit l'Épître aux Hébreux. Mais Christ souffre au travers de son corps. Chaque fois que l'Église souffre, Christ est en souffrance, en quelque sorte. Parce qu'il est solidaire de son corps. Voilà en tout cas deux éléments d'explication. J'ai fait allusion à Actes 9:5. Nous aurions pu prendre Galates 4:19, comment Paul souffrait les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé dans la vie des croyants. Il souffre. Chapitre 1:29. Il dit « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est à quoi je peine. » Vous pouvez dans votre Bible marquer je peine, parce que le terme utilisé dans le texte original est très très fort. L'amour. Vous savez que le mot labeur, qui est le mot travail, sous-entend la peine, hein, parce que l'amourer n'est pas rien. D'ailleurs, même le terme travailler, c'est un terme qui vient du latin, tripalium. Le tripalium, c'était un instrument de torture au Moyen-Âge. À une époque plus reculée, c'était un instrument qui servait à immobiliser le sabot d'un cheval pour pouvoir le ferrer. Et puis c'est devenu ensuite, finalement, un instrument de torture. Notre mot travail. On peut comprendre pourquoi certains n'aiment pas tellement le travail. Ça fait souffrir, paraît-il. C'est très fort, n'est-ce pas? Heureusement, il peine en combattant avec la force de Christ qui agit puissamment en moi. Là, c'est très fort, c'est très dense comme texte. Je veux en effet, chapitre 2, verset 1, que vous sachiez combien est grand le combat, l'agonie, dit le texte original. L'agonie que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Si vous allez au chapitre 4 et au verset 11, chapitre 4, verset 11, Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Jésus. Intéressant, hein? Ce qui montre que nous devrions faire attention avec l'utilisation de Jésus. Parce qu'en réalité, Jésus, à l'époque de Jésus, était un nom tout à fait courant. Et dans le domaine de la possession, par exemple, il est arrivé que des personnes délivrées de démons qu'on ait pu identifier en quelque sorte, des démons qui s'appelaient Jésus. Alors ça me gêne qu'on utilise si facilement le nom de Jésus sans parler de Jésus-Christ. Alors, nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais vous voyez là, il y a une petite précision, Jésus appelé Justus. Il a tenu à préciser, hein, appelé Justus, vous salue aussi, ils sont du nombre des circoncis, donc des croyants d'origine juive, et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Et ça, c'est un des aspects les plus douloureux pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul commençait à ressentir très, très douloureusement la solitude. Vous savez que la fin du ministère de l'apôtre Paul a été très difficile. Et elle a été très difficile, non pas à cause des païens, mais à cause des croyants. On a vu les faux frères, tout à l'heure dans la liste. Et je disais, et c'était en pensant bien ce que je disais, que ce n'est pas la moindre des souffrances. Les souffrances que Paul a connues, notamment au niveau de l'église mère, cette église de Jérusalem, dont il n'a jamais voulu être coupé. Il n'a jamais rompu avec elle. Il aimait beaucoup l'église d'Antioche. Il y a travaillé, il y a été heureux. C'était une église dynamique qui était tournée vers le monde païen. Mais il a tenu à garder avec l'église mère à Jérusalem des liens très étroits. Mais qu'est-ce qu'il a pu souffrir avec les croyants d'origine juive? Et finalement, c'est à cause de la vue humaine, Dieu était derrière, que finalement il s'est retrouvé dans cette situation très difficile, emprisonné finalement à Rome. Et plus le temps a passé, plus l'apôtre Paul était incompris et plus un vide se creusait douloureusement autour de lui. Dans la deuxième à Timothée, cette situation transpire très fortement. Démas m'a abandonné, etc. Ça fait mal. Quand on parle du succès des serviteurs de Dieu, du succès d'un ministère, quand on pense à ce grand apôtre et à tout ce qu'il a connu comme difficulté. Voilà, vous avez là une image de la situation de Paul, et je suis heureux de terminer par un des grands thèmes sous-jacents de l'Épître aux Colossiens, le thème de la joie. C'était dans notre introduction ce matin pour la méditation. Dans Colossiens 1, verset 3, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne cessons de prier pour vous. Nous rendons grâce. C'est un des grands leitmotifs, une des attitudes permanentes de Paul, pratiquement dans toutes ses épîtres, sauf dans l'Épître aux Galates. Dans l'Épître aux Galates, il est tellement marqué, négativement impressionné par le problème dont nous parlerons qui se développe, qu'il rentre dans le chou directement. Il ne peut même pas louer le Seigneur pour eux. Mais en dehors de l'Épître aux Galates, dans la plupart des épîtres, c'est d'abord la reconnaissance. La reconnaissance. Même pour cet épître aux Colossiens, même pour cette église de Colosse qui commençait à connaître des problèmes. Regardez verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Si vous allez au verset 24, je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Vous allez au chapitre 2, verset 7. Simplement un petit flash, hein. Abondez en actions de grâce. Chapitre 3, verset 15. À la fin d'un verset très important sur l'unité du corps, soyez reconnaissants. Ensuite, au verset 17, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et si vous allez au chapitre 4, verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâce. Ça m'a beaucoup frappé, cette épître. Cette manière dont l'apôtre Paul sème cette parole de grâce, hein, au milieu du sel de son enseignement. Dans une situation si difficile, un homme de Dieu en prison, vieillard, avec ce passé derrière lui, qui voit se profiler de plus en plus près le spectre du martyr, il savait que ça aboutirait tôt ou tard à ce niveau-là, et qui pourtant est centré sur la joie et la reconnaissance. Et ça me frappe d'autant plus que d'une part je me connais, et d'autre part c'est le problème de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, nous sommes de perpétuels mécontents. Peut-être que dès que nous sommes arrivés ici, nous avons commencé par voir ce qui n'allait pas dans notre chambre, n'est-ce pas? Non, mais c'est comme ça, n'est-ce pas? Tous ceux qui s'occupent d'accueil dans les maisons évangéliques à l'heure actuelle, et j'en entendais un tout récemment, sont souvent plus ou moins démolis par le regard négatif des croyants qui viennent passer des vacances. on voit tout du côté négatif, n'est-ce pas? Il manque ceci, il manque cela, on veut partir dès le lendemain, n'est-ce pas? On veut les conditions optimum. Regardez l'apôtre Paul. Regardez l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Et je crois que là, nous avons vraiment un défi qui nous est lancé. Le meilleur remède à l'esprit d'incritique, je ne parle pas de l'esprit critique, nous aurons l'occasion d'en parler, c'est-à-dire la nécessité de jauger, de discerner, d'apprécier les choses. Mais le meilleur remède à l'esprit de critique, qui consiste donc justement à toujours souligner tout ce qui est négatif, c'est la reconnaissance. De commencer par demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux sur ce qui est beau, ce qui est positif. C'est ce que cet homme de Dieu, le remarquable Tozer, disait, n'est-ce pas? Dans ce monde de corruption existe le réel danger pour tout chrétien soucieux de réagir contre le mal, de devenir la victime d'une maladie professionnelle qui caractérise les défenseurs de la religion, à savoir l'esprit de critique. La nécessité constante dans laquelle se trouve le chrétien d'aller à contre-courant des masses peut faire naître en lui la mauvaise habitude de trouver coûte que coûte des fautes chez les autres. Il critiquera systématiquement le comportement des autres sans indulgence et sans amour. Cet esprit de critique est d'autant plus dangereux que celui qu'il pratique est souvent sans reproche. Il analyse avec précision et finesse. Il juge et apprécie correctement. Et malgré cela, il est dans l'erreur. Terriblement dans l'erreur. Dangereusement dans l'erreur. Je suggère un remède à cette attitude qui cherche la faute chez autrui, l'action de grâce. Contraindre son cœur à être reconnaissant constitue un pouvoir efficace contre l'esprit de critique. Un cœur qui sait sincèrement dire merci ne peut aussitôt s'abandonner à la critique. Et là, je n'entre pas dans les détails, mais je laisse simplement, j'entrouvre la porte pour demain matin. Qu'est-ce qui permet à Paul d'être reconnaissant dans une situation si difficile avec des nouvelles si alarmantes? Tout simplement, c'est le fait que l'apôtre Paul était centré sur la personne de Jésus. Centré sur la personne de Jésus. C'est une des raisons parmi d'autres pour lesquelles nous avons ce merveilleux portrait de Jésus-Christ dans le chapitre 1er. Alors là, nous entrouvrons déjà la porte face aux déviations. Quel est le remède? Être bien centré. C'est-à-dire être centré sur Jésus-Christ. Peut-être que la première déviation pratique que nous pouvons connaître dans nos vies, c'est une déviation de caractère, celle de l'esprit négatif, qui souligne le mal, parce qu'il est centré sur lui au lieu d'être centré sur la personne de Jésus. Voilà, nous arrêtons là pour terminer par la prière et c'est là que nous prendrons demain matin pour toucher alors directement l'essentiel du problème de l'église de Colosse. Prenons Colossiens, chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, nous relisons les versets 21 à 23 pour l'instant. Colossiens chapitre 1er, versets 21 à 23. Je lis donc au verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Nous nous sommes donc penchés hier matin très brièvement sur la petite cité décadente de Colosse et ses deux voisines, quelques distances de 16 et 20 kilomètres à peu près, Laodicée et Hierapolis. Nous avons dit quelques mots sur l'Église et très brièvement les circonstances qui avaient amené trois lettres à quitter la prison de Rome, vous vous souvenez, Éphésiens, Colossiens et le petit billet personnel, qui est vraiment un modèle pour la rédaction de nos lettres. S'il y a une lettre modèle dans les Écritures pour nos courriers personnels, c'est bien le petit billet adressé par le vieillard Paul à Philémon. Il y a, bien entendu, une autre lettre qui a quitté cette prison de Rome, pas tout à fait au même moment, mais qui est de la même veine, de la même, je dis pas qualité, parce qu'elles sont toutes de grande qualité, mais qui a la même tonalité, c'est l'épître aux Philippiens. Il associe donc à la souffrance le message de la joie. Et avec ce centrage tout à fait particulier à ces épîtres, c'est celui de Jésus-Christ, être centré sur Christ pour pouvoir vivre et gérer de la bonne manière, avec le secours du Saint-Esprit, les événements qui peuvent être parfois difficiles et douloureux dans nos vies. Nous avions vu dans un troisième temps la situation de l'apôtre Paul à cette époque, sa souffrance, sa solitude croissante, son labeur pénible, son souci, sa passion pour les églises d'origine païenne, pour tout ce qui se faisait en terre païenne, au-delà du cercle plus spécifiquement juif, qui était celui, entre autres, et par excellence de l'apôtre Pierre. Et nous avons vu, c'était là notre conclusion, comment Paul, dans cette situation extrêmement difficile qui transpire de l'épître aux Colossiens, comment Paul peut se réjouir et inciter à la reconnaissance, à l'action de grâce, dans ces circonstances difficiles, malgré des nouvelles fort inquiétantes. Et c'est un thème qui vaudrait la peine d'être étudié, vous pourriez le faire à titre personnel, ce thème sous-jacent à Colossiens, la louange et la reconnaissance dans les situations difficiles. Nous avions laissé le dernier mot comme une porte entrouverte à ce que nous partageons aujourd'hui, en disant que si Paul est heureux, et non pas forcément d'une joie exubérante, nous aurons l'occasion de revoir sur ce thème, de revenir sur ce thème, on peut être, je dirais, dans une joie empreinte de tristesse. Les Écritures n'opposent pas les deux choses. Et la vraie joie chrétienne n'est pas forcément une espèce de d'éruption impressionnante, d'hilarité. Elle est différente, elle peut s'exprimer, certes, de manière extrêmement tangible et sensible, mais ce n'est pas sa caractéristique profonde. En tout cas, ce que je veux surtout souligner pour le moment, c'est que Paul est centré sur la personne de Jésus-Christ. Vous pourrez compter dans l'épître de Paul aux Colossiens, en 95 versets, quelques 56 mentions de Jésus-Christ. C'est beaucoup. Nous évoquions il y a un instant l'épître aux Philippiens. Dans Philippiens, en 104 versets, vous avez 51 mentions de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul a excellé dans ses écrits, dans son langage, dans sa manière de communiquer, dans l'utilisation de l'expression « en Christ », « en lui » et ses dérivés. 164 fois dans les épîtres de Paul. C'est une des particularités des épîtres de Paul que cette utilisation de cette terminologie, cette manière de dire les choses, vivre dans une relation d'intimité avec Jésus-Christ. Vous connaissez certainement une des grandes devises de l'apôtre Paul, de Philippiens 1:21, « Pour moi, dit le texte original littéralement, pour moi, vivre, c'est Christ. Pour moi, vivre, c'est une personne. C'est une personne. Ce ne sont pas des circonstances, ce ne sont pas des choses matérielles, ce ne sont même pas d'abord des relations humaines, mais il y a un centrage chez l'apôtre Paul qui va lui donner toute sa stabilité. Pour moi, vivre, c'est Christ, parce que Christ ne change pas. Et ça, c'est une chose que nous mettons beaucoup de temps à apprendre. Voyez, Paul est dénué de toute richesse propre, de tout confort. Il perd ses amis, y compris dans sa propre famille spirituelle, puisque certains judéo-chrétiens, donc convertis à Jésus-Christ d'origine juive, rompent toute communion avec lui. Et rien n'est plus douloureux que de se sentir incompris et dans une situation de rupture avec sa propre famille spirituelle. C'est déjà très dur dans la famille de la chair, mais c'est beaucoup plus difficile encore dans l'Église de Jésus-Christ. Et avec la sensibilité qui était celle de Paul, parce que Paul était extrêmement sensible, il y a une sensibilité, une fibre féminine dans le caractère masculin de Paul, il y a un équilibre absolument remarquable, il utilise un langage à la fois très viril et en même temps très féminin. Il parle de chérir avec tendresse et les termes sont extrêmement chauds. Cela montre toute l'action du Saint-Esprit dans sa vie. C'était un homme qui, autrefois, avait été un pharisien extrêmement rigide, de tempérament dur, glacé au couteau. Et le Seigneur a fait des choses extraordinaires dans la vie de cet homme. Il l'a rendu d'une grande, grande sensibilité. Et dans cette situation, dénué de tout, et dénué de toute illusion sur lui-même, il a eu le temps d'expérimenter la valeur des choses, des situations et des hommes. Et il a eu le temps donc de réaliser que tout en dehors de Christ déçoit un jour ou l'autre. Tout en dehors de Christ, à commencer par nous-mêmes, mais aussi dans ce qui parfois nous est le plus cher, tout déçoit un jour ou l'autre. Seul Jésus-Christ est absolument fiable. Et nous pourrions passer beaucoup de temps à évoquer cette passion de Paul pour la personne de Jésus. Philippiens chapitre 3, qui est aussi un texte très très dense, dans lequel l'apôtre Paul évoque d'abord son passé, il présente la carte d'identité de sa vie en dehors d'une relation personnelle avec Jésus-Christ, toutes ces lettres de créance au sein du monde juif, dans ces mots qui se succèdent avec beaucoup de densité à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, ces diplômes, etc. Et puis il y a au verset 7 ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Vous voyez, l'apôtre Paul, à cause de son passé, avait une sorte de répulsion pour tout ce qui avait fait sa gloire. Ça avait occupé tant de place dans sa vie, dans son orgueil spirituel, qu'il avait peur, n'est-ce pas, que cela puisse tant soit peu toucher au seul mérite de Jésus-Christ dans sa vie. Et ce centrage sur Christ, connaître Christ, gagner Christ, verset 10, ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été littéralement empoigné par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Vous avez lu l'utilisation dans ce texte du petit mot « connaissance ». On le souligne au passage, et c'est aussi pour cela que nous avons lu ces versets, pour indiquer que « connaître » est un des mots clés de l'épître de Paul aux Colossiens. C'est aussi un des mots clés du langage de Paul, « connaître ». Connaître. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais je souligne ici simplement que le terme utilisé ici dans le texte est un terme tout à fait particulier. Nous allons parler de la gnose ou du gnosticisme. Ce terme est en fait un mot grec francisé. Gnosko est le verbe grec, la connaissance et la gnosis. Mais ici, c'est un petit peu spécial, ce n'est pas la gnosis tout court, c'est l'épignosis, l'épignose. Et il y a une distinction subtile, mais qui est très importante dans le Nouveau Testament. Lorsque nous évoquons le terme connaissance, généralement, nous l'évoquons dans sa dimension matérielle, cérébrale, intellectuelle. Mais dans un monde où on cultive beaucoup les connaissances. L'apôtre Paul n'évoque pas cette dimension-là uniquement. Le terme laisse entendre une sorte de don total, de partage de tout ce que l'on a et de tout ce que l'on est avec quelqu'un d'autre qui en quelque sorte se donne lui aussi à nous. Que ce soit dans le domaine des choses, ou que ce soit dans le domaine de l'esprit, que ce soit dans le domaine des relations humaines. D'ailleurs, dans les Écritures, c'est d'ailleurs passé dans la langue courante aussi, vous avez le terme connaître qui est utilisé pour les relations à l'intérieur du mariage dans une saine sexualité. Quand il est dit, dans Genèse au chapitre 4, qu'Adam connut Ève, sa femme, c'est le terme qui est utilisé. Se donner, n'est-ce pas, dans le caractère le plus profond et le plus intime qui soit, à quelqu'un qui se donne lui-même. Ça, c'est la connaissance dans la mentalité biblique. Non seulement la science intellectuelle, mais une connaissance entière, précise, qui saisit l'être tout entier. Alors, quand l'apôtre Paul dit que sa passion, c'est de connaître Christ, nous pourrions dire donc que c'est d'entrer dans une intimité qui se donne entièrement, qui appartient pleinement à Jésus-Christ. Et quand le texte est renversé parfois dans les Écritures, quand il est question de Dieu qui connaît, c'est très beau, hein, d'un Dieu qui se donne, d'un Dieu qui accepte de partager quelque chose de sa beauté, de sa gloire, de sa propre intimité. Ça signifie beaucoup. Quand Dieu nous a connus, dit les Écritures, il nous a connus en Jésus-Christ. Il a accepté de se partager en quelque sorte, et que nous puissions entrer dans son intimité, dans le don de la personne de Jésus-Christ. Je le précise sans entrer dans trop de détails, parce que nous allons voir l'importance que ce thème a dans le cadre de cet épître aux Colossiens. Paul est donc l'homme en Christ. Dans 2 Corinthiens 12, vous avez ce témoignage personnel d'une grande sobriété. On aimerait que tous les témoignages personnels d'expériences vécues dans la relation du disciple de Jésus-Christ avec Dieu soient aussi sobres, aussi humble, aussi mesuré dans les propos que ce témoignage de 2 Corinthiens 12, 2, où l'apôtre Paul a vécu des choses absolument sublimes, il n'entre pas dans les détails, il est d'ailleurs même extrêmement prudent en racontant, de peur de dire des choses qui ne seraient pas tout à fait exactes. Et vous avez remarqué comment il commence, hein, non pas à la première personne du singulier, pour se mettre en avant, il dit « je connais un homme en Christ ».
C'est lui.
Je connais un homme en Christ. Voilà une merveilleuse définition de ce qu'est normalement le croyant, le disciple de Jésus-Christ, un homme en Christ. Alors Paul va insister tout particulièrement sur cette dimension. Nous avons lu hier dans les versets 12 à 20 ce portrait que nous allons décortiquer dans le cours de notre étude de Jésus-Christ. Et Paul insiste tout particulièrement pour mettre à nu et apporter une réponse au problème des Colossiens. Alors nous allons, dans un quatrième temps maintenant, sans entrer encore dans les détails, voir en ligne très générale le problème des Colossiens, et nous pouvons le discerner déjà à partir du verset 23. Le verset 23 du chapitre 1er, que nous avons lu tout à l'heure, tire le signal d'alarme. Le problème montre le bout de son nez. Et je dirais que ce verset 23, c'est déjà un verset clé, essentiel. Vous pouvez mettre une petite clé dans la marche de votre Bible. Si du moins, il y a là comme une sorte de réserve douloureuse, une sorte d'appréhension et déjà une mise en garde conditionnelle, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Si Paul est préoccupé, il souffre en leur écrivant, il souligne tout d'abord qu'ils se sont convertis, bien entendu, ce sont des membres d'église convertis à Jésus-Christ. Il y a 14 allusions à la conversion des Colossiens dans l'Épître. Vous pourrez essayer de les retrouver. 14. Ils ont connu la grâce, dit le texte, chapitre 1er, verset 6, depuis le jour où vous avez entendu et connu, voilà, l'épignosis, vous avez connu la grâce de Dieu. Vous avez bénéficié, vous vous êtes baigné, vous avez été emporté par le flot de la générosité gratuite, imméritée, inouïe de Jésus-Christ. C'est une très très belle expression dont ils ont connu la grâce. Au chapitre 2 et au verset 6, nous reviendrons sur ce texte, il est dit qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est une église qui grandit, qui rend un bon témoignage d'amour, chapitre 1er, verset 4, ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Même chose au verset 8. Épaphras nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. On aimerait que ce que Paul écrit de l'église de Colosse soit vraiment une réalité dans nos vies d'église. D'autant plus qu'on peut ajouter au chapitre 2 et au verset 5 la discipline qui règne dans cette église locale. Si je suis absent de corps, je suis avec mon esprit voyante, avec joie, le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Et il se trouve que ce sont deux images, qu'on appelle des métaphores, deux images militaires. Deux images militaires. Le bon ordre, il s'agit d'une armée qui est bien rangée en ordre de bataille, une version d'ailleurs a très bien rendu en évoquant les rangs serrés des combattants. L'Église, une armée bien rangée. La fermeté, vous avez ce terme qui était utilisé à l'époque pour évoquer un camp solidement retranché face à ceux qui assiègent. Alfred Kuhn va rendre remarquablement dans sa transcription, votre foi est aussi solide qu'une forteresse. Là encore, à l'heure où un des plus gros problèmes, certainement, de l'Église de Jésus-Christ à cause de du laisser-aller général dans le monde et celui de la discipline, dans l'Église locale, l'Église de Colosse a de quoi nous rendre jaloux. Amour, foi, discipline, il y a des éléments majeurs très très importants. Mais, vous voyez qu'on peut se glorifier de vivre une vie d'Église locale dans laquelle l'amour règne et fait entendre parler de lui même au loin. On peut se glorifier d'une vie d'Église disciplinée, d'une marche dans la foi, et pourtant il y a un mais, et qui n'est pas des moindres. Mais l'Église de Colosse est sérieusement menacée par plusieurs dangers, dont deux problèmes majeurs, liés l'un à l'autre, et nous verrons pourquoi. Le premier, c'est de retomber dans l'immoralité qu'ils ont connue avant qu'ils soient en Christ. Retomber dans l'immoralité païenne. D'où, au chapitre 3, à partir du verset 5, un texte très précis sur la conduite chrétienne dans la société et dans l'Église, dans lequel vient en premier lieu, comme d'ailleurs souvent dans les écrits de Paul, la pornéia, la débauche, c'est-à-dire toutes les déviations possibles de la sexualité, y compris en dehors du mariage, relations sexuelles, que ce soit de type concubinage, que ce soit de type prémarital, amour libre, imaginez tout ce que vous voulez, tout cela est à mettre dans le paquet de ce terme pornéia. C'est un terme très général dans les Écritures qui englobe toutes ces déviations de la sexualité. Puis après, il y a des termes plus précis qui vont évoquer l'homosexualité, l'adultère, la transsexualité, sous-entendue dans le caractère féminin, etc., etc. Alors, ça occupe pas mal de place, là, dès le début du chapitre 3 de Colossiens, comme ça doit occuper certainement beaucoup plus de place actuellement dans nos vies d'Église aussi. Parce que nous sommes confrontés à un monde en pleine déliquescence négative et nous avons besoin de veiller. Ça, c'est le premier problème. Mais lié à un autre problème, un problème doctrinal. Et nous ne devons pas dissocier, comme nous le faisons trop souvent, la pratique de la doctrine. L'un est très lié à l'autre. Et j'enfoncerai souvent le clou dans ce domaine. Le grand danger, c'est qu'il se laisse séduire par une hérésie subtile. Des erreurs doctrinales qui sont en train de s'infiltrer sournoisement, qui commencent à y faire des dégâts. Un ou plusieurs faux docteurs sont à l'œuvre dans cette épître. Et toutes ces erreurs, toutes ces déviations ont une même tendance et aboutissent à un même résultat. C'est que Jésus-Christ est diminué. Jésus-Christ est rabaissé. L'évangile qui est présenté par ces faux docteurs est un évangile au rabais, soldé, dénaturé, altéré, amoindri. Et là, nous touchons au cœur de la question du discernement dans une quantité de domaines. Quelle place occupe Jésus-Christ dans l'enseignement qui est donné dans l'Église? Quel genre de Christ nous est présenté? Est-ce que c'est le Christ fidèle à la parole de Dieu? Ça, c'est un point de repère sur lequel nous reviendrons. Disons aussi que ces faux docteurs s'inspirent de plusieurs courants. Et c'est là que ça devient très intéressant et que pour moi, ça a été vraiment l'occasion de mieux comprendre certains problèmes actuels. Ces faux docteurs s'inspirent de plusieurs courants. Tout d'abord, des courants philosophiques de la spiritualité et de la sagesse grecque. C'était une époque encore où la culture grecque jouait un rôle prépondérant. Nous sommes à cette époque en civilisation vraiment gréco-romaine et toute cette région en est fortement marquée. Il y avait également des courants qui venaient d'Orient, c'est-à-dire de plus loin encore, notamment des Indes. Intéressant. Quand on pense aux courants orientaux qui actuellement déferlent en véritable raz-de-marée sur nos pays occidentaux parce que nous sommes en train de rejeter complètement Dieu, alors nous faisons un saut dans l'irrationnel, un irrationnel sans Dieu, parce que le vide de nos cœurs a besoin d'être comblé, donc nous nous tournons vers d'autres spiritualités. Et les spiritualités orientales ont toujours été très tentantes pour nos pays lorsqu'ils ont connu des fléchissements et des temps de décadence. L'Empire romain, au 1er siècle, au 2e siècle, c'est-à-dire précisément notamment au moment où l'Épître romain était rédigé, l'Empire romain était en pleine décrépitude, en pleine décadence au point de vue moral. Il avait encore une certaine brillance, c'était ce qu'on appelait la Pax Romana, mais elle allait bientôt s'estomper, n'est-ce pas? Et à cette époque, il y avait tout un courant de mysticisme oriental qui déferlait sur Rome, où des temples aux divinités orientales s'ouvraient les uns après les autres dans cette immense cité qui faisait plus de 4 millions d'habitants. Tout simplement parce que les Romains en avaient